Bonjour à tous, je ne vais pas être très long ce soir. Je voudrais vous lire un passage dans Romains, chapitre 10, verset 14. Romains 10, verset 14. Alors voilà ce qui est dit. Ah oui, on voit ce qu'il est. Oh, je vais déjà dire verset 12. Il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Voilà. J'ai choisi ce texte-là parce que je reçois sur Révélation Bible, donc le site révélationbible.fr, et puis sur ma page Facebook Révélation Bible aussi, des tonnes de questions. Je croule sous les questions. Partout où vous me voyez, je suis toujours avec mon iPhone en train de répondre aux questions. Et là, je dis, le plus simple, j'ai une douzaine de questions, je vais répondre par une prédication. Ça fera du bien à tous ceux qui vont l'entendre, je pense. Pour certains, ça va être une aimable répétition, mais pour d'autres, ça va leur apprendre des choses qui sont importantes, puisque ces questions reviennent toujours là. Il y a une vingtaine de personnes qui m'ont posé une douzaine de questions qui sont à peu près semblables. Alors, pour répondre, donc, je fais cet enregistrement. La chose qui est fondamentale pour notre communauté, parce que vous savez que je vis en communauté avec mon épouse, nous vivons en communauté avec des frères et sœurs dans une grande maison, et nous vivons comme cela depuis 1977. Donc c'est pas une petite communauté qui date d'hier. On n'est pas des amateurs là-dedans. On sait ce qu'on vit, on sait de quoi on parle quand on parle de communauté, et on vit la vie communautaire non pas parce que c'est un truc qui nous plaît, qui nous a passé par la tête, mais parce qu'on a vu que les premiers chrétiens vivaient comme ça, en communauté. Ils mettaient tout ensemble, ils prenaient leur repas en communauté, et il n'y avait pas de pauvres parmi eux, tout était bien. Bon, vous lisez ça dans Acte 2 et Acte 4, Actes des Apôtres. Alors, la chose qui est fondamentale dans notre communauté, c'est de croire que nous avons le droit d'embrasser tout ce qui est vrai, sans être absolument restreint ni empêché par les croyances, des superstitions des gens d'aujourd'hui ou d'hier. Il faut simplement que cette vérité, ce qui est vrai, ce qu'on nous présente, soit clairement démontrée à notre esprit, à notre intelligence, qu'on le comprenne, et que cela soit en conformité avec l'analogie de la foi, c'est-à-dire avec les Écritures. Il ne faut pas que ça contredise les Écritures. Notre différence avec les groupes sectaires, c'est que les groupes sectaires sont tous limités par un dogme, par un credo. Et ces credos refusent aux membres de ces sectes le droit de croire à tout ce qui n'est pas dans le credo. Nous, par contre, on est prêt à croire à tous les principes justes qui existent et qui se manifestent quand Dieu le veut. Je ne peux pas croire au credo des diverses confessions chrétiennes parce qu'ils contiennent tous des choses auxquelles je ne peux pas souscrire. Bien que, faut le dire, ils ont tous une part de vérité quand même. Ils sont pas tous complètement dans l'erreur. Mais je ne peux pas souscrire, c'est pourquoi je ne fais partie d'aucune religion. Voilà, ça répond à une question déjà. Vous savez, le but d'un disciple de Jésus, c'est-à-dire d'une personne qui se discipline à suivre le Seigneur, qui marche selon les principes de Jésus, eh bien, c'est de monter jusque dans la présence de Dieu. C'est d'apprendre pour pouvoir justement monter dans la présence de Dieu, comprendre la pensée de Dieu. Mais les confessions religieuses dressent des barrières et disent « Tu peux venir jusqu'ici, mais tu n'as pas le droit d'aller au-delà de ça. » Voilà. Ça, tu dois croire ça, mais rien d'autre. Moi, ça, je ne peux pas supporter. Ça, je peux pas souscrire à un truc pareil. C'est pas, c'est simple. À toute personne qui veut fixer des limites au Tout-Puissant, je déclare avec fermeté, puis avec mes frères et sœurs de la communauté, vous êtes en train de passer à côté de la gloire de Dieu. Vous êtes en train de vous enliser dans des marécages, dans des sables mouvants, dans des trucs invraisemblables. Nous sommes appelés par le Seigneur cohéritiers du Fils. Voilà ce que la Bible dit que nous sommes, cohéritiers du Christ, du Fils. Nous, on n'a pas le droit, ni le temps. On n'a pas de temps à perdre avec des traditions humaines fausses. Moi, je veux bien en parler un petit peu, mais ça devient lourd. Ce qui compte pour un enfant de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est de comprendre ce que Dieu a institué avant que le monde fût. Et qui connaît ça? Alors, étant donné que dans notre condition humaine, nous sommes limités, eh bien nous, les êtres humains, nous avons cette tendance, à cause de notre nature limitée, nous avons cette tendance à vouloir toujours fixer des limites et des bornes aux œuvres et aux voies du Tout-Puissant. Et ça, c'est stupide. Des choses qui n'ont jamais été révélées, mes frères et sœurs, depuis la fondation du monde, ou qui ont été oubliées, qui ont été cachées aux sages et aux intelligents, ou qui ont été cachées par les sages et les intelligents de ces religions, vont être révélés de plus en plus à des petits-enfants et même à des nourrissons. C'est ce que la Bible nous dit. Dans ces temps de rétablissement de toutes choses, c'est ce qui est en train d'arriver parce que c'est le temps, c'est la plénitude des temps. C'est la plénitude des temps. Certains chrétiens croient posséder le plein évangile. Mais c'est carrément leur credo, hein. Ils ne possèdent pas le plein évangile. Ils se trompent. Personne ne possède le plein évangile. Nous sommes dans la plénitude des temps où les choses sont révélées petit à petit à ceux que Dieu s'est choisis et qui veulent bien écouter. C'est très différent. Parce que si nous croyons posséder le plein évangile, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que nous sommes fermés à tout ce que Dieu aurait encore à dire. Et mes frères et sœurs, je vous prie de me croire. Il n'a pas fini de parler. Même rien de ce qui est dans la Bible. Achetez-vous une Bible neuve, achetez un crayon rouge et soulignez tous les passages que vous ne pratiquez pas, qu'on ne vous enseigne pas dans votre église. Vous allez voir. Je ne parle même pas de souligner ce qu'on vous dit de faire et qui n'est pas dans la Bible, parce que vous ne pouvez pas souligner des choses dans votre Bible qui n'y sont pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont enseignées dans ces diverses dénominations chrétiennes, religions, qui ne sont pas dans la Bible. Et ça prend beaucoup de place dans votre cœur, dans votre tête. Il y a eu une très grande apostasie. Après que les apôtres, les 12 apôtres, les 12 disciples du début, sont décédés. Une apostasie, ça veut dire un abandon de la vérité. Et l'Église est devenue malade. Elle est devenue une Église d'État, hein? Et puis elle s'est empoisonnée, elle s'est empêtrée dans toutes sortes d'erreurs, qu'elle essaie de justifier. Dieu veut lui donner un rétablissement. Il veut la guérir. Il veut lui parler. Mais qui va écouter? Qui va écouter? Ils ont les oreilles ensablées avec toutes sortes de poussières, de vieux machins du Moyen-Âge, des trucs. Et les dirigeants retiennent la vérité injustement captive. C'est ce que nous dit Romains chapitre 1. Et quand les gens parlent contre la vérité, ce n'est pas Dieu qui lèse, mais c'est eux-mêmes. C'est pourquoi je vous prêche comme ça. C'est parce que je ne veux pas que vous soyez lésés. Quand les choses sacrées sont négligées, qu'on n'y pense même pas, qu'elle est négligée par des gens qui ont un esprit un peu faible, moi, de mon côté, je veux voir la vérité. Je veux la voir venir à moi. Je prie, je la reçois, je la rejette pas, je la chéris. Et puis je l'annonce. Vous savez, mes frères et sœurs, j'ai jamais entendu dire qu'une personne ait été damné pour avoir trop cru dans ce que le Seigneur a promis dans la Bible et dans ce que le Seigneur a ordonné dans la Bible. Par contre, les gens seront condamnés à cause de leur incrédulité. Ça, c'est aussi dans la Bible. Vous savez, il y a un principe. Quand Dieu offre une bénédiction ou une connaissance à un homme, à une femme, à un enfant, et que ces personnes la refusent, refusent cette connaissance, refusent cette bénédiction, eh bien, cette personne commence à avoir des problèmes. Je dis bien commence à avoir des problèmes, parce que Dieu est miséricordieux, il laisse un temps pour que la personne ait le temps de réfléchir. Les gens ne réfléchissent plus, on réfléchit à leur place. Les gens ne réfléchissent plus. Souvenez-vous de Dieu qui voulait parler à son peuple dans le désert. Le peuple de Dieu a refusé. Vous trouvez ça dans Exode 20, 19. Ils ont dit à Moïse, parle-nous toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon on va mourir. J'ai peur de Dieu. Maintenant, c'est plutôt le contraire. Dieu est devenu leur copain, leur pote, qui leur parle pour un oui, pour un non, pour aller choisir des melons, pour n'importe quelle idiotie. Mais n'empêche que ce principe-là, qui était décidé là, eh bien, il tient encore aujourd'hui. Dieu continue à faire ainsi. Il ne parle qu'à ses serviteurs, les prophètes, Amos 3, je ne sais plus combien. Aux autres personnes, il envoie des anges qui peuvent leur parler. Mais qui croit au ministère des anges aujourd'hui? À force de ne plus croire au ministère des anges, les anges se lassent. Aussitôt que quelqu'un croit avoir une révélation, il croit que c'est Dieu qui lui parle. Rien que ça. C'est pas croyable. Dieu qui parle à un pauvre Pékin comme ça. Non, mais... Alors, vous me direz, oui, mais le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Oui, par les Écritures. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Enfin, contemplez la confusion ambiante dans le monde et dans les églises. C'est... Voilà, vous posez des questions, je vous apporte une réponse. Il y a des démons qui sont passés pour des anges de lumière, qui viennent radoter des trucs à des oreilles un peu, à des gens un peu déséquilibrés. Et puis ces gens, ignorants, croient qu'ils entendent Dieu. Maman mia. Enfin, peu importe. En 51 ans de ministère, j'ai toujours eu la satisfaction de voir la vérité triompher de l'erreur et les ténèbres laisser la place à la lumière, heureusement. Mais j'ai vu aussi beaucoup de personnes partir orgueilleusement dans les ténèbres avec le salaire de Judas. Ils sont certains d'être dans la vérité. Certains d'être bénis de Dieu. Mais les problèmes commencent à leur arriver. Et ils disent, je suis attaqué par le diable. Non, t'es pas attaqué par le diable, c'est les conséquences de ta bêtise. Mes frères et sœurs, la connaissance est nécessaire à la vie et à la piété. Malheur à vous, prêtres, pasteurs, curés, qui enseignez qu'il suffit de croire et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la connaissance, le savoir pour être sauvé. Ôtez les quatre évangiles, ôtez les épîtres des apôtres, ôtez l'Apocalypse, ôtez cette connaissance. La connaissance, c'est révélation. Écoutez bien ça, la connaissance est la puissance de Dieu pour le salut. La connaissance met fin aux ténèbres, la connaissance met fin à l'incertitude, la connaissance met fin au doute. Les ténèbres, l'incertitude, le doute ne peuvent pas cohabiter avec la connaissance parce que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Christ, c'est la parole de Dieu. C'est pas les blablabla des uns et des autres qui viennent vous raconter ce qu'ils pensent, n'est-ce pas? Voilà. Il y a un pouvoir dans la connaissance. C'est parce que justement il est omniscient, parce qu'il sait tout, que Dieu a le pouvoir de s'assujettir toute chose. Vous me direz, alors pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il vous respecte, parce qu'il vous aime. Mais viendra le jour où il va serrer les boulons. Et là, il y en a beaucoup qui vont être très étonné. Dans la mesure où nous dégénérons, où nous n'écoutons plus le Dieu de la Bible, nous descendons vers le diable. Et nous devenons des étudiants de la méchanceté, de l'inutilité, de la stupidité, de la cruauté, parce que nous étudions mal. Cette semaine, j'ai mis un témoignage d'un ami. Bon, c'est pas un témoignage, alléluia, le Seigneur est grand, gloire à Jésus et tout. Non, non, c'était un ami qui venait dire qu'il était très malade, et que il faisait tout ce qu'il fallait pour se guérir. Et puis il a fait un petit poème pour dire merci à son corps, merci de m'avoir porté, de m'avoir supporté. J'étais très très dur avec toi très souvent. Et cet homme, il est en train de s'approcher de Dieu. C'est un ami. C'est quelqu'un que j'aime profondément. J'ai dû enlever ce poème qu'il a dit parce que les chrétiens ont commencé à dire « Oui, cet homme est un homme divorcé, il vit dans le péché, et puis il a la bouche remplie de grossièreté, il faut qu'il se repente, sinon il sera perdu. Hey, c'est mon ami, et il lit ce que toi là, tu es en train de dire, tu le condamnes, tu le connais même pas, tu sais rien du tout de sa vie, rien tu sais, rien !» À part ce que tu vois un peu à la télé, et tu condamnes. Ça, tu crois que ça lui fait du bien? Oh, ça, connaître suffisamment pour pouvoir condamner les autres, ça, il y en a beaucoup qui sont passés maîtres là-dedans. J'ai dû enlever le commentaire parce que c'est une véritable catastrophe. Sous couvert d'évangélisation, c'était de la condamnation à haute dose sur ce pauvre homme que j'aime, que je respecte. Mes frères et sœurs, celui qui n'assemble pas avec Jésus, il est frère de celui qui détruit. Pierre ne dit-il pas qu'il faut ajouter à notre foi la qualité morale et à la qualité morale la connaissance de Pierre 1:5. Mais ça prend du temps. Il y en a pour certains, ça leur prend plus de temps que d'autres. Et vous qui êtes tellement fiers, n'est-ce pas, d'être sauvés, et puis qui vous permettez de condamner mon ami comme ça. Vous étiez comment avant d'être sauvé? Vous étiez comment quand vous étiez jeune converti? J'aimerais bien savoir. Tu es un sale pécheur, une sale pécheresse comme tout le monde. Alors arrêtez avec vos jugements, s'il vous plaît. Et puis même si ça ne vous plaît pas, arrêtez. En tout cas, venez pas m'enquiquiner sur mon site. Quelqu'un me parlait hier, c'était une femme. Elle voulait juste discuter, n'est-ce pas? Alors elle se demandait, si un esprit est dans ta maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors elle posait la question, moi je lui réponds. Et puis l'autre disait, il faut allumer des bougies, il faut faire brûler des sauges. Puis moi j'argumentais, et puis elle me dit, mais t'es qui toi pour venir nous apprendre des trucs? Je dis, mais tu as posé une question, je réponds à ta question. Hein, moi je suis pas là pour apprendre, je suis là pour discuter. Ah bon? Elle n'était pas là pour apprendre, elle est juste pour discuter au sujet des esprits qui peuvent hanter une maison. Tout ça. Vous savez quoi? L'homme ou la femme qui n'acquiert pas la connaissance sera conduit ici-bas et à l'heure de sa mort par une puissance mauvaise. Parce que les esprits du mal ont de la connaissance et ils séduisent les insouciants. Et ils séduisent les négligents, et ils séduisent les superstitieux, et ils séduisent les bricoleurs du monde des esprits. Vous savez, ces gens qui chassent les fantômes et tous ces machins-là. Attention, attention. Ils les séduisent, ils les conduisent, et ils les emporteront avec eux dans la perdition. On ne s'amuse pas avec ça. Là. Juste avant de partir au ciel, juste avant de partir dans l'ascension, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Première chose, ils chasseront les démons. Est-ce que vous chassez les démons? Ou est-ce que vous vous amusez avec les démons en brûlant des bougies, en mettant de la sauge et puis du parfum de je ne sais quoi? Vous êtes des bricoleurs. Vous savez rien. J'essaie de vous apprendre, mais vous n'en voulez pas. Bon, ben, tant pis. Tant pis. discuter, juste pour discuter. Je sais pas si vous savez, mais quel que soit le degré d'intelligence, de connaissance et de savoir que vous atteignez ici-bas, tout ça, ça se lèvera avec vous dans votre résurrection. Et si, par votre diligence, par votre obéissance, vous acquérez dans cette vie plus de connaissances qu'une autre personne, eh bien, vous en serez avantagé dans le monde à venir. C'est pourquoi je vous exhorte à apprendre. À apprendre. C'est impossible à un humain d'être sauvé dans l'ignorance. Il y avait un pseudo-prophète qui m'avait dit des milliers de personnes vont venir pour se convertir, et ils vont venir au portail et tout. Je dis, mais comment ils vont faire pour venir? Il n'y a personne qui leur prêche. Ah, mais c'est le Saint-Esprit qui va les envoyer. C'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que nous allions leur prêcher. Si on va pas leur... Moi, j'allais prêcher, mais lui, là, non, jamais. Jamais. Oui, un petit témoignage, par-ci, par-là. Comment les gens sauront-ils si personne ne va leur dire? Parce que nous sommes sauvés par Jésus le Sauveur, pas par notre connaissance, mais par Jésus le Sauveur. C'est Jésus qui sauve, c'est sûr. Mais encore faut-il avoir foi en lui. N'est-ce pas écrit que nous sommes sauvés par Jésus en ayant foi en lui, car quiconque croit en lui sera sauvé. Il faut croire en lui, avoir foi en lui. Et l'invoquer, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est le verset qu'on a lu au début. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, c'est-à-dire s'il n'y a personne qui enseigne, c'est-à-dire s'il n'y a personne qui témoigne, c'est-à-dire s'il n'y a personne qui donne la connaissance? Romains 10, 14. Vous voyez? Et on a tous été baptisés dans le Saint-Esprit pour être des témoins, des gens qui répandent la bonne parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, enfin ceux qui le sont, pour ça, pas pour parler en langue. Bien sûr que c'est nécessaire, et moi-même je parle en langue, mais c'est pas le signe initial du fait qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Le signe, c'est qu'on est des témoins efficaces et reconnus, approuvés par Dieu par toutes sortes de signes de miracles. Or, sans la foi, la Bible nous dit dans Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais dans Romains 10, 17, il est dit « La foi vient de ce qu'on entend, dans le sens de ce qu'on comprend. La foi vient de ce qu'on comprend. La foi vient de ce que l'on sait. Si on ne sait pas, on ne peut pas avoir la foi. » Les gens qui me disent qu'ils ont la foi, mais qui ne connaissent pas la Bible, ils n'ont pas la foi. Ça n'est pas la foi. C'est un bricolage d'échafaudages, de croyances abracadabrantesques. La foi, L'apôtre Paul dit dans Romains 10, verset 17, « Et la foi vient de ce qu'on comprend, de ce qu'on entend, de la parole de Christ. » Voilà. Alors, peu importe la tradition humaine, la parole de Christ et de ses apôtres, ayez foi dans ce qu'elle enseigne et vous serez sauvés. « Oui, mais vous savez, la Bible, elle a été trafiquée. » D'accord, foule en l'air ta Bible et puis va en faire avec. C'est des excuses tout ça, parce que tu veux pas lire, parce que tu veux pas croire, et tu veux pas croire, tu sais pourquoi tu veux pas croire? Parce que tu veux pas abandonner ton péché. C'est pour ça que tu veux pas croire. C'est pas pour autre chose. C'est pas que tu peux pas croire, c'est que tu veux pas croire parce que tu sais très bien que Dieu veut pas que tu continues à faire tes péchés. C'est ça le problème. C'est que ça. Écoutez, ça fait 51 ans que je prêche. Je connais la nature humaine. Je sais comment c'est. Ça, on me fait pas... Oh. Comme disait Camélia, la vieille gitane, c'est pas un vieux singe que tu vas apprendre à faire la grimace. Je connais la nature humaine. Les gens disent, j'arrive pas à croire, je peux pas croire. Si tu peux croire, c'est une décision. Dis plutôt, je ne veux pas croire. Parce que si tu te mets à lire la Bible, tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses à faire. Qu'il faut abandonner le péché, etc. Ça, les gens veulent pas. J'ai un copain qui me disait, Moi, j'aime beaucoup Jésus, mais je préfère Bouddha parce que quand je rentre complètement bourré, Jésus, il m'engueule alors que Bouddha, il m'engueule pas. Ah, le coquin. Voilà. Par ce petit message, j'ai répondu au moins à 20 personnes qui posaient une douzaine de questions. Les réponses sont dans mon message. Je pense que vous êtes content, que vous êtes satisfait, vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Et je vous l'ai expliqué en une fois. Et j'ai économisé du temps parce que je passe vraiment maintenant, c'est plus de 2 heures par jour sur mon téléphone à répondre. Alors je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, venez à la connaissance de la parole de Christ et de ses apôtres. Amen. Merci Jésus de bénir ce que j'ai dit dans le cœur des gens. S'ils ont été un peu choqués, eh ben, tant mieux. Je te prie Seigneur que cela au moins les marque et les fasse réfléchir à salut dans le nom de Jésus mon Dieu. Amen. Voilà, c'est pas parce que je vous parle fort que je vous aime pas. C'est parce que justement je vous aime. Surtout vous qui venez puis qui me posez des questions, avec qui j'ai fait connaissance depuis tant de mois maintenant. Eh bien, je parle un peu fort, c'est pas parce que je vous aime pas, mais c'est parce que simplement ce que je voudrais, c'est que ça rentre dans votre tête et dans votre cœur. Voilà. Et puis si vous aimez pas ma façon de parler, ben vous allez écouter quelqu'un d'autre. Il y en a tellement, n'est-ce pas, qui sont sur le net. Et je sais que vous m'aimez bien. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.